Il n'échappe sans doute à personne que nous sommes entrés en période électorale. L'actualité tragique en Europe de l'Est nous le fait peut-être oublier, mais d'ici 3 semaines, tout juste, les Français seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Et comme à chaque élection, les candidats se bousculent et se lancent dans la course, appuyés par leur parti et les centaines de militants qui les constituent. Compétition, débat, joute verbale se multiplient alors dans les médias et dans les salles de meeting, et ailleurs d'ailleurs. Parfois, malheureusement, le débat dérape et vire à la dispute, offrant aux spectateurs un bien triste spectacle. Alors on peut admettre que de telles discussions puissent faire partie du jeu dans le cadre d'une élection démocratique. Néanmoins, il faut aussi reconnaître les conséquences néfastes que de telles discussions peuvent avoir sur le pays lorsqu'elles virent mal, lorsqu'elles virent à la dispute. Dans les familles, parfois. Le désintérêt des électeurs aussi, pour la politique, parce que ça se passe pas bien. La défiance des gens à l'égard des dirigeants. L'abstention, le fait que les gens n'en ont plus rien à faire, finalement, etc. Le texte biblique que nous allons lire ce matin a été écrit par l'apôtre Paul à l'attention de l'église de Corinthe. Nous allons ouvrir la Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Au 1er siècle, cette église était connue pour ses nombreux biens matériels et spirituels, mais aussi pour ses nombreux, très nombreux problèmes relationnels. On ne s'y disputait pas forcément pour des raisons politiques, dans le cadre d'une élection, et pas forcément, ça se passait pas comme ça, en tout cas, mais les rivalités étaient néanmoins fréquentes, et en particulier, c'est dramatique, au sujet des apôtres qui avaient eux-mêmes fondé l'Église. Par ces rivalités, les Corinthiens montraient qu'ils plaçaient davantage leur fierté dans leur sagesse, dans leur capacité, dans des hommes, plutôt qu'en Dieu. Loin de juger, de condamner telle ou telle église, ce n'est pas mon propos ce matin, mon but est plutôt de nous encourager, nous, aujourd'hui, chrétiens de Cavaillon. Car même si notre situation actuelle à Cavaillon est plus paisible que celle de l'église de Corinthe, Dieu merci, nous sommes tout aussi imparfaits, et ce que la Bible nous enseigne au sujet de ces chrétiens est susceptible de nous édifier, nous aussi. Permettez-moi de rajouter, en particulier, un jour d'assemblée générale. Sur cette base, donc, et à la lumière du passage que nous allons lire, je souhaite donc nous encourager par 3 enseignements ce matin, tirés de ce texte, à vivre 3 attitudes, et en particulier dans le cadre de l'Église et dans nos relations d'Église. Et vous verrez que ces 3 enseignements découlent directement du fait que Dieu prend soin de son Église et qu'il pourvoit à ses besoins. Premièrement, vous avez compris, hein, ce sera les 3 parties du message de ce matin. Premièrement, dans l'Église, soyons des chrétiens conduits par l'Esprit que Dieu nous a donné. Ensuite, dans l'Église, mettons notre fierté en Dieu, et en Dieu seul. Et enfin, dans l'Église, servons, oui, mais servons en restant fidèles à l'Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, si vous avez une Bible avec vous, et j'espère que c'est le cas, je vous propose de l'ouvrir avec moi, et nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et des versets 1 à 11. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 11. Pour ceux qui suivent dans ces versions-là, c'est la page 745. Page 745 dans la version second 21. Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animé par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà pour la lecture. Vous le savez, j'aime mon fils Samuel. Il fait toute ma joie. Je l'aime très très fort. Mais une chose me désespère parfois avec lui. Souvent d'ailleurs. Bien que je fasse en sorte qu'il ait tout ce qu'il lui faut pour bien se comporter, de l'amour, des consignes, je l'espère en tout cas, claires, les moyens d'accomplir ce que je lui demande, il se débrouille souvent pour faire tout le contraire. Oui, il y en a un deuxième qui arrive. Oui, alors on est un bon. Merci. Mais ça va aller. Je me suis fait cette réflexion en me plongeant dans le texte que nous venons de lire concernant les Corinthiens. Dans sa grâce, Dieu a béni ses chrétiens en abondance, en pourvoyant à tous leurs besoins. Le chapitre 1 nous le rappelle, hein, il les a bénis spirituellement, les comblant dans tous les domaines. Il leur a envoyé l'apôtre Paul aussi, pour leur annoncer l'évangile, et Apollos pour les enseigner et cheminer avec eux. Nous lisons cela, en particulier dans le livre des Actes au chapitre 18. Je vous y renvoie, vous pourrez le lire plus tard. Apparemment, les chrétiens de Corinthe avaient tout ce qu'il leur fallait. Pourtant, dès les premiers versets de ce passage, et d'ailleurs, ça apparaît déjà dans le chapitre 1 aussi, nous constatons que quelque chose ne va pas. Paul doit leur parler comme à des enfants, et pas comme à des chrétiens mûrs et spirituels. Paul regrette quelque chose de bien précis, qu'il ne soit pas dirigé ou conduit par l'Esprit. C'est au verset 1. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Exactement. C'est une expression qu'on rencontre parfois quand on lit le Nouveau Testament, « Soyez dirigés par l'Esprit », mais on a parfois du mal à bien saisir ce que ça veut dire. Nous croyons que le Saint-Esprit est donné par Dieu aux croyants au moment de sa conversion, mais nous ne savons pas toujours en quoi consiste son action après. Wayne Grudem, un théologien américain, propose une définition de l'œuvre du Saint-Esprit. Je me permets de le citer. L'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde, et en particulier dans l'Église. Manifester la présence active de Dieu dans le monde, et en particulier dans l'Église. Une des nombreuses missions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est donc de le guider, de le diriger, en particulier au moyen de la parole, de la Bible et de la prière. pour qu'il ne soit pas livré à ses mauvais penchants, à son péché. Dans une autre épître de Paul, l'épître aux Galates, nous lisons en 5, 24, 25, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont placé leur foi donc en Jésus-Christ et en son œuvre parfaite à la croix, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Ainsi, par son attitude, le chrétien peut soit se laisser conduire par Dieu, soit suivre les mauvais penchants de son cœur qui sont malheureusement encore présents en lui. C'est ce que Paul appelle la nature propre des Corinthiens qui les entraînait vers le péché. Vous avez compris, il ne s'agit pas de se confier dans ses capacités, hein, mais dans l'œuvre de Jésus-Christ et de se laisser conduire par l'Esprit que Dieu nous donne. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a bien conscience de cette dualité dans nos comportements de tous les jours? Avons-nous conscience que Dieu est présent en nous par son Esprit et qu'il veut, nous guider, nous aider à nous comporter d'une manière qui lui plaise? Alors vous connaissez tous la liste des fruits de l'Esprit mentionnée dans la même épître aux Galates, dont je viens de parler précédemment. Verset 22, un verset bien connu, magnifique. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, nous dit la parole. Même si les Corinthiens avaient reçu un certain nombre de dons de la part de Dieu, de l'Esprit, force est de constater qu'au moment où Paul leur écrit, ils ne manifestaient pas ces fruits-là. Nous le voyons dans les versets suivants, versets 3 et 4. Bien que chrétiens, les Corinthiens se comportent comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui préfèrent être sages selon leurs propres critères, selon les critères de la culture grecque dans laquelle ils baignent. Ils se disputent, ils se jalousent, et précisément à propos de Paul et Apollos, les apôtres qui les ont conduits à Christ. Certains se réclament de l'un ou de l'autre, un peu comme le feraient des hommes éloquents sur une agora, ou plus proche de nous, dans notre culture, les militants d'un parti politique, au moment de l'élection présidentielle. En faisant cela, ils oublient leur identité. Ils oublient qui les a unis sous une même bannière. Ils oublient qu'en Christ, ils forment un seul et même corps, une seule et même famille. Ils oublient, oui, où se trouve leur véritable identité. C'est le propre d'un enfant ou d'un ado de s'opposer à ses frères et sœurs et a fortiori à ses parents. Sa personnalité n'est pas encore tout à fait formée. Selon certains spécialistes, c'est ainsi qu'il la forge, d'ailleurs. Et si nous voulons être des chrétiens mûrs, ce n'est pas comme cela que nous devons nous comporter, et surtout pas dans le cadre de l'Église. Notre identité, nous la connaissons, ne vient pas de nous, elle nous vient de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus est mort pour que des hommes et des femmes indignes et rebelles, comme nous, puissent connaître Dieu, vivre une vie nouvelle et être unis ensemble sous son autorité. Voilà ce qui fait de nous des chrétiens, en fait. Et souvenons-nous de cela dans le cadre de l'Église. Souvenons-nous de cela dans nos relations fraternelles, dans nos actions, mais pas que, dans nos paroles et dans nos pensées aussi. Par exemple, la prochaine fois que nous aurons une mauvaise pensée par rapport à un frère ou à une sœur, malheureusement ça arrive, que nous serons jaloux d'un don que nous n'avons pas, que nous chercherons à avoir raison à tout prix au cours d'une conversation, souvenons-nous de notre identité à ce moment-là. Souvenons-nous de comment est-ce que Dieu a pourvu à cette situation. Souvenons-nous du frère ou de la sœur qui est face à nous, de l'identité qui est la sienne aussi, en fait, en Christ, c'est la même. Nous pouvons avoir des caractères différents, même parfois ne pas être d'accord sur certains sujets. Mais souvenons-nous que nous avons le même Seigneur et que nous sommes unis par le même Esprit. Or, le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? L'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, dit Paul aux Galates. Alors une raison majeure de vivre en paix les uns avec les autres est développée dans les versets suivants d'ailleurs, et c'est l'objet de la deuxième partie de ce message. Les versets 5 à 9 constituent le cœur de ce texte, qui culmine véritablement au verset 7. Dans cette section, Paul met les choses au point concernant son ministère et celui d'Apollos. Il remet également en perspective ces deux ministères par rapport à l'action de Dieu. Paul affirme très clairement la primauté de la puissance de Dieu et invite ainsi les Corinthiens à regarder moins aux serviteurs qu'à celui qui les a appelés. Vous le savez, un des défis du prédicateur est de trouver des illustrations pour rendre son message un peu plus parlant. Alors ici, Paul nous facilite la tâche, en tout cas à moi, je ne vous le cache pas, puisqu'il a utilisé non pas une, mais deux illustrations pour le prix d'une. Alors je vais, permettez-moi de les réutiliser. Paul compare d'abord l'action de Dieu dans son Église à la culture d'un champ, et ensuite à la construction d'une maison. Ce sont d'ailleurs des images que nous retrouvons souvent dans la Bible, que ce soit dans les paraboles de Jésus ou dans les épîtres. Paul affirme ainsi que si le champ peut croître, les plantes qui sont dans le champ, ou si la maison peut se construire, c'est uniquement grâce à la puissance de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de constater à quel point Dieu pourvoit à l'édification de son peuple. Nous pouvons réellement être fiers d'appartenir à un tel Dieu. N'oublions pas aussi ce que dit Paul en Romains 11, 36. Il dit « C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. » Alors louons Dieu pour sa providence, pour le fait qu'il pourvoit en toutes choses, et en particulier dans le domaine spirituel. Remercions-le pour la foi qu'il a fait germer dans nos cœurs et qu'il fait grandir par différents moyens. Et quand nous sommes nous-mêmes amenés à témoigner de notre foi, quand nous sommes dans cette position-là, ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, en notre sagesse ou dans notre éloquence, mais parlons simplement de l'Évangile, parlons simplement de Jésus, fruit de la sagesse de Dieu. Prions et faisons confiance à Dieu qui seul détient la puissance de faire germer un grain qui a été semé. Alors pour autant, malgré ça, Paul ne nie pas la réalité de son travail, et du travail d'Apollos. La culture d'un champ, travail agricole, c'est du travail. La construction d'une maison, c'est du travail aussi. Demandez à la famille là si c'est pas du travail. Et à tous ceux qui ont construit une maison d'ailleurs, de manière générale. Simplement, Paul met l'emphase, met l'accent sur le fait que dans ce travail, ce n'est pas tant l'homme qui compte, mais Dieu, qui seul possède la puissance d'édifier son peuple. Que ce soit Paul, qui a fondé l'église à Corinthe, ou Apollos, qui a ensuite enseigné les Corinthiens, chacun de ses serviteurs a été appelé par Dieu, qui les a lui-même qualifiés. Aucun d'eux n'a pris la place de Dieu, ni même la place de l'autre. Chacun a eu son propre rôle, sans distinction de valeur, mais en toute complémentarité. Nous pouvons, je pense, remercier Dieu d'avoir pourvu de cette manière aux besoins d'édification de l'Église. Nous pouvons très simplement dire merci à Dieu pour les apôtres du premier siècle, qui ont eu une mission très spécifique en posant un solide fondement pour l'Église. Comme nous l'avons entendu la semaine dernière lors du culte intergénérationnel, quand nous avons parcouru le livre des Actes, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Alors bien sûr, il n'est pas question de tomber dans le même travers que les Corinthiens, hein, en exaltant la sagesse de ses frères, ni de tomber dans je ne sais quelle vénération, qui serait malsaine pour le coup, mais il est très différent de mettre sa fierté dans un homme et de dire merci à Dieu pour le service de cet homme. L'état d'esprit n'est pas du tout le même, ça n'a rien à voir. Dans un cas, nous glorifions l'homme, dans l'autre, nous glorifions Dieu. De la même façon, nous pouvons aussi remercier Dieu d'avoir appelé des serviteurs à travailler dans cette église, ici. Tout au long de ces presque 3 décennies d'existence, on en est à 29 cette année, 30 l'année prochaine. Grâce à Dieu, notre église a elle aussi été bâtie sur le fondement des apôtres, consignés dans la Bible. Soyons reconnaissants pour ça. Remercions Dieu pour les hommes et les femmes qu'il a envoyés ici pour accomplir cette mission, parfois maladroitement, c'est vrai, mais avec foi. Et si ce texte de Corinthiens implique surtout un évangéliste et un enseignant, souvenons-nous aussi que chaque membre de l'Église est appelé à contribuer à sa manière et avec le don que Dieu lui a donné à l'édification de l'Église. Le texte ici n'en parle pas en ces termes, mais nous connaissons évidemment d'autres textes du Nouveau Testament qui parlent du rôle de chacun dans l'Église. Encore une fois, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas enseignants, mais tous sont des pierres vivantes de l'édifice, des ouvriers potentiels dans les mains de Dieu pour le bien de l'Église. Même les plus petits, même ceux qu'on voit moins. L'essentiel est de servir selon le don que Dieu nous a attribué, en restant soumis à celui qui est puissant pour faire grandir, puissant pour faire croître. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu pour ça. Et aujourd'hui le travail continue. C'est l'objet de la 3e et dernière partie de ce message. Une autre chose essentielle d'ailleurs à se souvenir dans notre service, je dirais même fondamentale, au sens propre. À la fin de ce passage, Paul adresse aux Corinthiens un rappel et une recommandation. Le rappel, c'est de considérer le fondement sur lequel leur église a été bâtie. Ce fondement a été posé par l'apôtre Paul lui-même. Il s'agit du Seigneur Jésus. Comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, c'est sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie parfaite, sa mort, sa résurrection, que l'Église tout entière est fondée et peut vivre unie à la manière d'une famille. En Éphésiens 2, 18 à 21, nous lisons donc un passage que je vais lire maintenant. À travers lui, c'est-à-dire à travers Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint, dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Sans bonne fondation, une maison ne peut pas tenir très longtemps. La véritable église, elle, est bâtie sur la fondation la plus solide qui soit et qui a été donnée par Dieu, son Fils. Jésus-Christ, c'est la personne du Seigneur Jésus. La recommandation que Paul adresse aux Corinthiens au verset 10 et 11 est vraiment solennelle. À la suite des Corinthiens, nous sommes invités à prendre garde à la manière dont nous construisons la manière dont nous construisons sur le fondement qui a été posé. Cela veut dire, en fait, que l'on peut construire de manière durable ou non. Selon le verset 11, la seule façon de construire durablement est de s'appuyer sur le fondement posé à l'origine. Alors ça, bien sûr, c'est en premier lieu un avertissement pour les enseignants, ceux qui enseignent dans l'Église, et pour les prédicateurs. Mais c'est aussi un avertissement pour chacun de nous. Soyons vigilants à nos interventions. Soyons vigilants à ce que nos interventions lors des cultes et de nos échanges, peut-être plus informels, ne diminuent pas la portée de l'Évangile. Quand nous en parlons, parlons-en en entier, sans omission. La vérité du message de Jésus-Christ est contenue dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est là-dedans. Alors lisons-la. Lisons-la souvent pour ne pas l'oublier. Pourquoi est-ce qu'on lit souvent la Bible? Pourquoi est-ce qu'on lit souvent la parole de Dieu? Parce que l'Évangile s'y trouve. L'Évangile s'y contient toute la révélation de Dieu, d'ailleurs pas que l'Évangile, le reste aussi, mais tout se trouve dans la parole de Dieu. En tout cas, ce qu'il a jugé bon de nous révéler, que l'on sache. Et l'Évangile, en tout cas, s'y trouve, le fondement de notre Église. Alors, encourageons-nous à chaque fois que nous le pouvons avec cette vérité, sans laquelle notre foi serait bien vaine. Et si nous enseignons, veillons à ce que cela soit toujours sur la base du plan de salut de Dieu, accompli par son Fils, Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu fera croître son Église. Pas par notre sagesse, pas par la sagesse des hommes, mais par sa seule puissance. Alors en conclusion, pas très long pour la conclusion, je voudrais simplement rappeler les trois attitudes, les trois enseignements que j'ai développés, qui doivent imprégner nos vies, en particulier dans le cadre de l'Église. Dans l'Église, soyons des chrétiens conduits par l'Esprit et vivons en paix les uns avec les autres. Dans l'Église, mettons notre fierté en Dieu et reconnaissons sa toute-puissance et sa bonté. Et trois, dans l'Église, servons, oui, mais servons en restant fidèles à l'Évangile de Jésus-Christ, le fondement qui nous a été transmis. Et qu'en tout cela, Dieu soit honoré parmi nous, qu'il soit glorifié ici-bas. Amen. Je vous invite à prier. Père céleste, nous nous reconnaissons ta toute puissance. Nous reconnaissons avec l'apôtre Paul que tout nous vient de toi, à commencer par notre salut auquel tu as pourvu en Jésus-Christ. Nous croyons que c'est toi, Père, qui donne la croissance. Nous en remettons à toi. Nous te prions de nous conduire, Père, par ton esprit. Conduis-nous et purifie-nous, purifie ton Église par ton esprit. Père, garde-nous des divisions, des rivalités destructrices. Et merci pour l'esprit de paix qui règne quand même dans notre Église actuellement. Nous sommes reconnaissants pour ça. Nous t'en remercions que cela puisse perdurer. Père, aide-nous à toujours mieux nous aimer et à vivre en paix les uns avec les autres. Seigneur, si nous avons des désaccords, que nous puissions les exprimer simplement et dans l'amour. Et guide-nous si cela arrive. On s'en remet à toi. Seigneur, que nous placions toujours notre fierté en toi, plutôt qu'en notre sagesse. Que nous te glorifions toi, plutôt que des hommes. Merci Seigneur de continuer dans ta grâce à pourvoir aux besoins de ton Église. Merci Seigneur, merci Père de daigner nous utiliser à ton service, alors que nous puissions faire cela en restant fidèles au Seigneur Jésus et à l'Évangile. Merci Père pour ce fondement sûr et solide, le roc sur lequel nous voulons continuer à construire ensemble. Pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Amen.